à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce vendredi 19 avril. Fondée en 1949, la Société d'histoire du Témiscamingue célèbre cette année ses 75 ans. Il s'agit d'une des plus anciennes sociétés d'histoire au Québec. Marie-Hélène Brault, présidente de la Société d'histoire du Témiscamingue, raconte.
Le 22 avril, c'est-à-dire lundi prochain, c'était vraiment la création où les gens qui étaient le comité organisateur au départ avaient fait une demande et ont eu les lettres patentes le 22 avril 1949. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on était la 26e société d'histoire du Québec à l'époque pour une région qui était très jeune. Fait que ça, c'est remarquable que déjà en 1949, les gens se préoccupaient de l'histoire de la région.
Madame Brault nous résume la mission de la Société d'histoire.
La mission, je te dirais que c'est de peut-être préserver tout ce qu'on a, autant au niveau écrit qu'au niveau photographique, qu'au niveau des films, qu'au niveau des livres. C'est assez exceptionnel ce qu'on a et c'est de toujours le préserver dans le but de pouvoir le partager. Je vous dirais qu'on a des projets présentement avec les écoles pour que les jeunes connaissent l'histoire de notre région. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est là un peu comme les anges gardiens pour préserver l'histoire du Témiscamingue, beaucoup par des photos. Ça, je trouve ça très intéressant. Et on a aussi des gens, lorsqu'ils décèdent, nous donnent accès à tous leurs archives. Ça aussi, c'est important pour nous parce que ça nous permet de garder les grandes familles qui ont colonisé la région.
Parmi ses grandes réalisations, la Société d'histoire du Témiscamingue a obtenu la classification de la maison du frère Moffett ainsi que l'agrément de son centre d'archives en 2002. On y retrouve plus de 257 fonds en provenance de particuliers et d'associations que le public peut consulter. Madame Cécile Herbert, archiviste et directrice de la Société d'histoire depuis 25 ans, nous donne quelques exemples.
Le fonds Augustin Chénier qui comprend tous les débuts du Témiscamingue. Il y a le fonds du curé Moreau qui comprend l'UCC dedans, l'Union catholique des cultivateurs qui est rendu l'UPA maintenant. On a le fonds de TéléVM que c'était dans le temps. Ça, on a ça. On a toutes les cassettes. Beaucoup de gens viennent pour avoir des émissions qu'ils ont fait. On a le fonds de TV Témis maintenant qui nous a emmené le cassette.
La Société d'histoire a profité de son 75e anniversaire pour rafraîchir son logo et produire un calendrier historique où chaque village est représenté. Plusieurs activités sont aussi prévues au cours des prochains mois.
En fait, tout va commencer le 24 juin à l'ouverture de la maison du frère Moffett. Et puis, après ça, le 29 juin, à Guigues, on a un souper retrouvaille où on va avoir des invités comme Marc Riopel qui a écrit quand même beaucoup de livres sur l'histoire du Témiscamingue. On va aussi avoir Monsieur Gaétan Lemire qui a été longtemps régisseur, qui va venir nous partager des souvenirs. Le 24 à où les gens qui aiment la poésie, ça va être important. On reprend une activité à la maison du frère Moffett justement pour créer, pour pouvoir partager la poésie qu'on a, qui va être suivie ce soir-là sur la scène du lac Témiscamingue. C'est une association qu'on a avec la ville de Ville-Marie. Les gens vont pouvoir, ceux qui veulent, aller dire leur poème. Et après ça, on va avoir l'orchestre Les Bras dans les airs qui vont venir animer le reste de la soirée. Ça, c'est samedi le 24. Et finalement, le 2 septembre, c'est la fin de la saison. Donc, c'est Monsieur Michel Boutin qui va venir nous parler de généalogie du Témiscamingue.
La Sûreté du Québec rappelle l'importance d'être vigilant afin d'éviter d'être victime de fraude. Plusieurs signalements ont été faits aux policiers de la Sûreté du Québec concernant des fraudes auprès de personnes aînées. La sergente Nancy Fournier, agente à l'information de la Sûreté du Québec, nous explique.
Depuis plusieurs mois, il y a eu plusieurs signalements qui ont été faits aux policiers en lien avec divers stratagèmes de fraude. Aujourd'hui, on veut vraiment mettre de l'avant que depuis hier, il y a plusieurs personnes en Abitibi-Témiscamingue qui nous ont fait part, qui ont reçu des appels se rapportant beaucoup à la fraude grands-parents qu'on appelle. C'est vraiment que les fraudeurs, ils ciblent des personnes, entre autres des personnes âgées, donc ils communiquent avec eux par téléphone en mentionnant qu'un de leurs proches, souvent un petit-fils ou une petite-fille, est soit en détention ou hospitalisés et que s'ils veulent les aider, ils doivent débourser plusieurs milliers de dollars. Souvent, là, lorsqu'ils font ce genre de mise en scène-là, les fraudeurs impliquent parfois une personne qui se fait passer pour un policier ou un avocat.
Les fraudeurs sont sournois et de mieux en mieux équipés pour commettre leurs délits.
C'est sûr que ceux qui nous rapportent là, justement qui ont été ciblés dans ce genre de fraude-là nous parlent vraiment que la personne avait nommé le nom de leur petit-enfant. Même à certains endroits, il y avait l'impression que c'était même la voix de leur petit-fils ou leur petite-fille. En fait, ce qu'on dit aux gens, c'est que les fraudeurs, là, ils sont vraiment avancés, eux aussi, en technologie. Hein. Donc, il faut pas se fier ni à la voix, ni au nom.
Madame Fournier propose des conseils afin de mieux réagir lorsqu'un fraudeur entre en contact avec vous.
Une personne, mettons, vous appelle et vous dit que bon, votre petit-fils, il s'est fait arrêter, il faut que vous donniez tant d'argent. Ben, c'est vraiment de prendre un pas de recul, même si on sent qu'on est angoissé, là, qu'on sent que là, il faut se dépêcher, il faut faire quelque chose pour l'aider. Essayez de chercher à rejoindre la famille immédiate, là, soit justement un membre de la famille, un parent, pour vérifier si l'histoire se tient ou pas.
Nancy Fournier rappelle d'informer les aînés de votre entourage, puisque c'est souvent par manque d'informations qu'ils peuvent se laisser embarquer dans ce stratagème.
Tout ce qui est, mettons, les policiers, agences gouvernementales, c'est pas de cette façon-là là, qu'on communiquerait avec les gens pour les aviser que leur petit-fils s'est fait arrêter et on demanderait jamais d'argent. Ce qu'on demande à la population, c'est d'être vraiment vigilant. Puis si vous avez des grands-parents ou des parents qui sont d'un certain âge, puis que leur nom et leur téléphone est dans un bottin téléphonique, vous assurez de les appeler pour les aviser de cette fraude-là, pour qu'ils soient au courant. C'est des stratagèmes de fraude qui reviennent régulièrement. Donc, c'est toujours bon d'aviser là, nos proches là, que ça existe.
Les élèves de l'école secondaire catholique Sainte-Marie de Newlesquirt pourront bénéficier d'un deuxième gymnase. Le gymnase actuel, qui est toujours en bonne condition, ne répondait plus aux besoins de la clientèle scolaire qui a augmenté avec l'arrivée des élèves de 7e et 8e année. Un deuxième gymnase est donc en construction et les travaux devraient se terminer au cours de l'automne prochain. Madame Karine Labonté, directrice de l'école secondaire catholique Sainte-Marie de Newlesquirt, nous explique l'origine de ce projet.
C'est avec l'arrivée des élèves de la 7e et la 8e année de l'école Saint-Michel, donc ils commençaient à manquer d'espace à l'école catholique Saint-Michel, juste à Newlesquirt. Donc, finalement, quand les élèves sont arrivés ici à l'école Sainte-Marie, la directrice qui était en poste au moment, qui était Annick Boucher, a commencé une demande au ministère de l'Éducation parce qu'il manquait d'espace de notre côté aussi avec le gymnase. Donc, ça a commencé évidemment avec Annick Boucher qui a monté un solide dossier et a soumis la demande.
Ce deuxième gymnase permettra de répondre à plusieurs besoins.
Bien, dans le fond, ça va nous donner de l'espace justement pour pouvoir être hôte de tournois. Pour nos cours d'éducation physique aussi, là, en ce moment, on est tassé pas mal. Là, on remplit le gymnase à chaque moment. Il n'y a pas de moment libre dans notre gymnase comme tel de l'école. Donc, on va être capable d'offrir plus de services. Aussi, il y a toute la question des pratiques. On a des équipes sportives bien au secondaire qu'à l'intermédiaire. Donc, ça va nous permettre de pratiquer nos équipes un petit peu plus puis maximiser le temps de ce côté-là. En ce moment, nos élèves de 7 et 8 se réveillent très tôt le matin pour arriver au gymnase parce que c'est le seul moment de disponible. Donc, en gros, il y a beaucoup d'opportunités. Puis évidemment, toute l'activité physique, comme on le sait, c'est le bien-être, la santé mentale, ça crée des liens d'appartenance à l'école.
La construction de ce nouveau gymnase de 6300 pieds carrés comprendra un vestiaire avec salle de bain et douche et un bureau pour le personnel enseignant. Un espace sera également aménagé au-dessus du vestiaire pour les spectateurs. Et le rapport de disparition a été reçu peu après 3h20 le matin du samedi 13 avril concernant un véhicule qui est entré dans le fossé inondé près des chemins Promenade Road et Maybrook Road. L'agent de la police provinciale de l'Ontario, Siobhan Christo, a confirmé que le corps d'un homme de 33 ans a été retrouvé par l'unité de recherche et de récupération sous-marine après plusieurs jours de recherche et que, par respect pour la famille, l'identité du défunt ne sera pas dévoilée. Ça complète votre bulletin d'information régional. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.